Bienvenue dans votre magazine Vie solidaire sur Radio Alpes-Mancelles. Un magazine social qui parle des associations, du handicap et de la société. Ancien alcoolique, il vient en aide aux autres et devient président de l'association Alcool, Écoute, Joie et Santé de la Sarthe. Cette personne, c'est Didier Petithomme, ainsi nous le recevons.
J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais, là où les arbres n'ont jamais donné que des grenades, des goupillers, jusqu'à atterrir ma bien-aimée sur mon bateau. J'ai navigué, j'ai dit aux hommes qui se battaient, je viens planter un oranger. Buvons un verre, allons pêcher, pas une guerre ne pourra durer. Lorsque la bière et l'amitié et la musique nous feront chanter. Oh Dieu, à tout jamais, sous aucune croix, l'amour ne se plaît. Ce sont les hommes, pas les curés, qui font pousser les orangers. Je voulais planter un oranger là où la chanson n'en verra jamais. Il a fleuri et il a donné les fruits sucrés de la liberté.
Alors, monsieur Petithomme, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, parlez-nous de votre histoire.
Eh bien, il s'est passé que quand j'ai eu une vingtaine d'années, j'étais dans la consommation un peu festif. Et ensuite, petit à petit, je me suis aperçu que le festif, c'était très bien pour moi, mes copains et tout, parce que tous les week-ends étaient en soirée. Et malheureusement, au fil des années, ça a augmenté en quantité et je me suis mis à devenir un alcoolique caché. Un alcoolique caché, c'est une personne qui consomme en cachette. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis marié, j'ai eu deux enfants, on a acheté une maison, on partait en vacances et tout. On est tout pour être heureux, mais je ne sais pas pourquoi. tous les soirs, j'avais quelque chose dans ma tête qui me disait, ben, c'est comme si j'avais un démon avec ce produit, car des fois je n'emploie le mot produit, j'entends pas toujours parler du mot alcool, que c'est vrai que les personnes, ça les fatigue. Alors souvent, je viens sur le mot produit, et tous les soirs, eh ben, ça me prenait vers 18h, 19h. Je descendais dans mon sous-sol, et puis je me mettais à en consommer en cachette. Et le problème, c'est quand on consomme en cachette, c'est qu'on n'a personne pour nous aider. Quand on est dans un bar avec des amis, au bois de trois tournées, on s'en va, parce que quand vous êtes en cachette, vous avez tellement peur qu'on trouve votre consommation qui est cachée, eh ben, vous finissez par boire votre bouteille. Et moi, sur la fin, j'étais à une bouteille de whisky par jour. Et un matin, ça m'a pris comme ça. Il faut que je prenne une solution. Il faut absolument que j'arrête cette alcoolisation. Alors, un vendredi soir, j'ai appelé des amis. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Déjà, ils ont été surpris parce qu'ils ne savaient pas que je consommais, parce que je tondais ma pelouse et tout. De la journée, rien ne se voyait. Mais c'était que le soir. Ce qui fait, je suis parti dans un centre de soins d'urgence de ma mère. Et ensuite, de ce centre de soins, j'ai demandé à faire un sevrage de 10 jours. Un sevrage, c'est 10 jours dans un établissement médicamenteux. Ça se passait à ma mère. Et ensuite, je suis sorti de ce sevrage. Ça a été très bien, mais je n'étais pas à l'aise. Mon entourage n'avait pas confiance en moi. Ils pensaient toujours que j'allais reconsommer. On me suivait comme un cache-cache, c'est-à-dire... toujours peur que je reprenne une bouteille et tout. À un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je vais reprendre ma vie en main. Et c'est là, avec l'accord de mon ex-femme, on avait divorcé. Et après, ben, je me suis mis à me reconstruire tout seul, parce que j'ai quand même été 6 mois à vadrouiller un petit peu. À savoir que pendant 6 mois, je n'étais pas vraiment sans contact. Hein. J'allais une semaine voir un psychiatre. La semaine d'après, je voyais un généraliste qui me recevait après ses consultations, qui était très gentil. Et la troisième semaine, je voyais mon addictologue, qui était ma mère, Madame Zubar. Et c'est là qu'après, au bout de 6 mois, je me suis dit, bon bah, ça va bien aller comme ça. Et c'est là que je me suis mis à rencontrer dans une association. Au départ, je ne voulais pas y rentrer dans l'association. Parce que je me disais, on va me bassiner, c'est toujours les mêmes histoires. Ouais, patati, patata. Et la première fois que je suis rentré dedans, je me suis senti libéré parce qu'on ne m'a pas jugé. Hein, vous voyez, on était à peu près 25, 26 personnes. Il n'y a pas eu de jugement. Et c'est là que ça m'a plu. Et ensuite, au bout d'un an après, j'ai commencé à faire, comme je vous dis, je suis mis dans l'association pour faire des interventions. Voilà en gros mon histoire. Mais là, ça va faire 17 ans que je suis en abstinent complet. Abstinent complet, ça veut dire sans alcool. Et c'est de mon choix. Hein, parce que moi, quand j'interviens dans les centres, je ne les oblige pas à faire comme moi. Mais la meilleure solution pour se sortir de cette maladie, on n'a pas trouvé de médicament pour l'instant. Alors c'est une abstinence complète, c'est un choix que j'ai choisi et ça marche très bien pour moi.
Et on rappelle en effet que l'alcoolisme, c'est une maladie.
C'est une maladie. Et à savoir que c'est une maladie qui est inguérissable. On ne guérit jamais de cette maladie. La seule solution qu'ils ont trouvée pour l'instant, les addictologues, c'est de ne plus toucher de goutte d'alcool. Là, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai rencontré une personne il n'y a pas si longtemps, au bout de 17 ans d'abstinence complète, une femme. Elle était au mariage d'une de ses filles. À la fin du repas, sa fille a demandé « Je vais consommer, toi bien consommer, une petite coupe de champagne. » Elle n'a pas voulu, elle l'a prise. Et malheureusement, dès le lendemain matin, eh bien, la personne a rechuté, était partie à prendre sa bouteille de vodka. À savoir que notre cerveau, lui, c'est comme une voiture. Hein. Une voiture, vous n'avez plus d'essence, ça ne va pas démarrer. Eh bien, nous, notre maladie, vous y mettez une goutte d'alcool dans votre cerveau, tout se remémorise et vous repartez de plus belle. Hein. Et toutes les personnes que j'en rencontre, j'en ai rencontré 263 dernières, c'est beaucoup de rechutes et ils disent tous que c'est pareil. Dès qu'on reboit seulement un demi-verre, c'est terminé, la rechute, elle est là. Hein.
Alors, vous nous avez parlé de votre histoire. D'où est venu concrètement le déclic pour vous ?
Le déclic, ça m'est venu ben déjà le matin. C'est vrai que quand vous consommez une bouteille de whisky le soir, le matin, vous n'êtes pas bien, vous êtes vaseux. Et je commençais à avoir des hauts de cœur, des vomissements. Disons que je n'étais plus à moi. Hein. C'était un brouillard dans ma tête. J'ouvrais les volets, je n'entendais plus rien dehors. Ben, c'était un brouillard dans ma tête. Hein. Alors, ça m'a pris un vendredi soir, je ne sais pas pourquoi. Je dis hop, j'en ai marre, j'arrête. J'étais voir mes voisins, du moins aux urgences. Et puis, c'est un déclic. Hein. Pour qui, pourquoi ça a mis autant de temps à avoir ce déclic et, je me suis dit, il faut que j'arrête parce que je vais tout perdre. C'est ça le problème. Parce qu'à savoir que l'alcool, à un moment donné, bah, ça nous fait payer tout cash, on perd tout. Hein. Vous perdez tout votre entourage. Parce qu'aussi, il faut savoir que dans notre maladie, c'est qu'on s'isole de tout le monde. Ce qui fait, on ne va plus vers les amis, les repas de famille, ça ne m'intéressait plus. Parce que c'est vrai qu'on est en famille, c'était bien, mais je faisais attention de ne pas trop consommer pour pas que ça se voie. Et dès que tu arrivais chez moi, ben, je repartais de plus belle. Hein. Alors, c'est une maladie vraiment, je crois que c'est beaucoup psychique aussi. Hein. C'est au niveau du cerveau. Parce que moi, je dis toujours que l'alcoolisme est lié à la psychiatrie. Et la psychiatrie peut être liée à l'alcoolologie. Et ça, il y a beaucoup de personnes, malheureusement, même les grands professeurs nous disent, vous voyez, je vais partir le 1er 2 janvier, deux jours en formation avec Mme Benesch, une écrivaine à Paris, et elle nous forme très bien sur ce domaine. Cette personne, elle travaille avec le ministère de la Santé, et elle nous explique toutes les règles qu'on doit expliquer aux personnes pour s'en sortir. On a des formations qui sont assez appuyées quand même pour être intervenant. On n'est pas intervenant du jour au lendemain. C'est beaucoup de travail pour nous.
Et tout un parcours de guérison. Hein.
Ah oui, c'est tout un parcours de guérison. Là, moi, je vois bien, là, ça fait 16 ans que je fais de l'aide aux malades. À chaque fois que je vais voir un malade, pour moi, c'est une béquille aussi. Parce qu'aller les voir, c'est un peu mon parcours qui me revient dans ma tête. Et c'est vrai que c'est important de travailler là-dessus. Et moi, ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de pugnacité pour continuer à rester abstinent. C'est sûr que c'est très important. Mais à savoir aussi, c'est que les personnes qui se sortent de l'alcool, moi, ce que je leur dis toujours, faites attention à votre sortie. N'allez pas vers des personnes fragiles. Parce que si vous allez aider une personne fragile, vous n'allez pas y arriver. Là, j'ai le cas avec 4-5 personnes qui ont voulu aider d'autres personnes dès leur sortie. Ils ont tous rechuté. Il faut un laps de temps de 1 an et demi à 2 ans pour commencer à faire ce que je fais au niveau des centres de cure, les centres de sevrage et la vie individuelle.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été, on allait voir la mer, tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis, et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue, mon vieux. Le soir, en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot, il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con, dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi, papa.
Vous avez été accompagné après, hein, suite à votre guérison. Vous êtes entré dans l'association Alcool, Écoute, Joie et Santé. Comment déjà vous avez découvert cette association ?
Ben, disons que j'avais un copain, un très bon copain, qui est tombé dans l'alcool comme moi. Depuis 1976, on partait en vacances ensemble. Et lui, en 91, il a voulu arrêter. Et lui, il était dans cette association. Et quand il a su, j'étais parti en centre de soins et lui voir, viens dans l'association, tu vas voir. Moi, je ne voulais pas. Les 5 premiers mois, je n'ai pas voulu y aller. Parce que moi, je me disais dans ma tête, aller dans l'association, ils vont parler que d'alcool et puis j'aurai peur de rechuter. C'est vrai que quand on raconte le produit dans la tête, ça peut nous dire, il peut y avoir une rechute. Ce qui fait, j'y étais. Et le premier jour, j'y étais, j'ai rien dit. Deuxième jour, pareil. Parce que c'est une réunion qui était tous les 15 jours. Et au bout de 3 mois, je me suis bien adapté avec lui. Puis je n'ai plus vidé mon sac, hein, parce que c'est vrai que quand on a une association, c'est pas facile de pousser la porte. Mais quand vous la poussez, vous voyez plein de monde devant vous, c'est encore plus compliqué. Ce qui fait que j'ai pu me libérer, et bon, pas du sujet, c'est tout, pas de jugement. Ils m'ont toujours accompagné. Hein. Quand j'ai divorcé et tout, ils m'ont aidé à déménager et tout. Après, c'était en bénévolat. Mais c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé. Et puis le problème, c'est que nous, on a des plaquettes, on a des flyers qu'on donne dans les centres de soins avec des numéros de téléphone. Et moi, je suis joignable jusqu'à minuit le soir pour être à l'écoute des personnes qui ont un problème relatif lié à l'alcool.
Et justement, quelles sont les missions de cette association ?
Notre mission, souvent, c'est de les aider avant le départ des soins. On les suit pendant les soins et après les soins. Nous, on n'est que des bénévoles, on n'est pas rémunérés et tout, on n'est que des bénévoles. On va à leur rencontre pour les faire sortir de la maladie. Parce que c'est vrai que c'est pas évident de se sortir comme ça de la maladie. Et nous, comme on a un vécu dans la maladie, on peut les expliquer, les règles à mettre en place, fais attention à ci, fais attention à ça. On les dirige vers d'autres centres si on voit qu'ils vont pas très bien. On les envoie vers le XAPA, hein. Le XAPA c'est rue Molière-Mont. C'est un centre avec des infirmiers, psychiatres et tout, qui les aident. Et ensuite, c'est eux qui les dirigent vers des centres de soins.
Comment elle fonctionne, l'association des adhérents, des bénévoles ?
Disons, nous, une petite association, on est 40 adhérents environ. Et nous sommes 4 à intervenir dans les centres de soins. Il y a moi, il y a Jean-Jacques, Dominique et Philippe qui interviennent dans les centres de soins. C'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'on va manquer de bénévolat, là, c'est très très compliqué. Mais à savoir quand là, vous voyez, la semaine prochaine, mardi prochain, on a 2 groupes de parole à la même heure. On a un après Martine et un à Galouadec. C'est des groupes de parole avec les personnes qui sont déjà dans les centres de soins. On va à leur rencontre, on leur raconte un peu notre parcours et après c'est questions-réponses, on leur répond à leurs réponses si on peut. À part tout ce qui est ordre médical, on n'en parlera jamais. Parce que nous, on n'est pas infirmiers ni médecins. Nous, on est des simples aidants aux malades. Vous savoir aussi, ce que j'ai mis en place il y a un an et demi, j'ai mis en place un groupe de parole pour l'entourage. Parce qu'on s'est aperçu que dans les centres de soins, on s'occupe des malades, tout. Mais l'entourage, lui, il est un peu perdu. Il se dit, mais comment va se passer la rentrée ? Est-ce qu'il va reconsommer ? Est-ce que je mets des traits sur les bouteilles et tout ? La chose à ne jamais faire parce que c'est le risque d'une rechute. Et nous, on est là pour aider aussi, à aider, à accompagner l'entourage. On a 2 personnes qui ont été formées là pour l'entourage et ça se passe très bien. On a 2 salles quand c'est comme ça. On a une salle en bas avec les malades ou anciens malades et on a une salle au-dessus que pour l'entourage. Ça peut être les enfants, les conjoints. On a même vu des chefs d'entreprise venir voir pour leurs ouvriers et tout. C'est le but, c'est qu'il y a un dialogue à part. Parce que si vous faites une réunion avec le malade et la compagne, ça ne marchera pas. Alors c'est pour ça qu'on fait toujours 2 réunions en même temps. Et à la fin de ces réunions, eh bien, ce que l'on fait, on a une autre pièce et on fait un petit pot de l'amitié qui est sans alcool, comme prévu. Et on met des petits gâteaux et puis après il y a un petit dialogue qui s'organise.
Alors sinon, vous êtes devenu dans un premier temps, bien sûr, bénévole de cette association. Et là, vous avez pris la présidence. Pourquoi ?
Eh bien, pourquoi ? C'est comme dans toutes les associations, on manque de bénévoles. Personne ne se peut prendre en charge des présidences, des secrétariats, la trésorerie. C'est beaucoup de papiers, c'est tous les jours, c'est des mails, c'est plein de formulaires à remplir. Là, vous voyez, là, j'ai des demandes de subvention. Une demande de subvention, c'est 32 pages à remplir. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Moi, je peux le faire parce que je suis à la retraite, mais c'est vrai que c'est énormément de travail. On passe plus de temps sur les papiers qu'à intervenir au niveau de nos malades. C'est ça le problème qu'on a maintenant. C'est un gros souci, ça.
Alors sinon, que dire aux gens qui sont malades de l'alcoolisme pour qu'ils puissent pousser la porte de votre association Alcool Écoute Joie et Santé de la Sarthe ?
Eh bien, toutes les personnes que l'on rencontre pour pousser l'association de l'Alcool Écoute Joie et Santé de la Sarthe, on les retrouve tous dans les centres de soins. Bon, c'est déjà des personnes qui sont en soins. Et c'est là qu'on nous demande d'intervenir dans tous ces centres de soins, Mamerst, Galwadec, Prémartine et l'HDJ du Pôle Santé Sud. L'HDJ, c'est l'hôpital de jour que l'on rencontre une fois tous les 3 mois. Et nous, on leur donne des plaquettes, on discute avec eux et ils ont des numéros de téléphone, des personnes qui sont, comme moi, à la charge d'aider les personnes. Et soit ils nous téléphonent et puis ils rentrent en contact avec nous, on les fait venir aux réunions s'ils veulent.
Oui, donc il ne faut pas hésiter à vous contacter.
Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, là, on met des flyers dans les mairies, un peu partout. Par contre, les personnes qui m'écoutent, il faut qu'ils comprennent bien qu'une personne de l'entourage ne peut pas nous contacter pour aider une personne. C'est le malade qui doit nous contacter. Parce qu'on ne peut pas intervenir chez une personne si elle ne veut pas prendre des centres de soins, vous comprenez? Alors nous, on fait toujours attention que la personne soit bien volontaire de nous rencontrer. Et on sera toujours 2 à y aller, jamais une personne. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas savoir sur qui on va tomber, alors on fait très attention. C'est pareil, nous faire de l'association, c'est bien, mais il faut qu'on se protège aussi. Parce qu'on ne sait jamais sur quelle personne on va tomber. On peut tomber sur des personnes qui sont gentilles, il y a des personnes qui peuvent être violentes, alors on fait très attention. Vous voyez bien comment ça se passe, cette actualité à la télé, avec les féminicides et tout, qui sont souvent liés à l'alcool et la drogue. Et ça, on fait très attention qu'on intervient chez les personnes.
Est-ce que vous pouvez nous donner les contacts de l'association pour ceux qui souhaitent plus de renseignements ou ceux qui souhaitent de l'aide de votre part?
Oui, je vais vous donner mon numéro de téléphone. C'est le 06 11 89 18 12.
Quels sont les projets pour l'association?
Les projets, on a beaucoup de projets, mais on manque de financement. Là, on va mettre en place cette année une sortie thérapeutique tous les mois. Parce qu'on s'est aperçu que les personnes, souvent, elles sont seules. Elles n'ont plus de travail. Elles sont un peu entre 4 murs. Alors, tous les mois, on essaye de faire une petite sortie thérapeutique. Soit une randonnée, soit là, on va faire un petit bowling. On fait plein de choses. On fait un petit concours de pêche, un concours de boules. On s'arrange que tous les 3e dimanche du mois, on fait une sortie thérapeutique. Comme là, vous avez vu, les dernières, on a fait le 2e dimanche de Noël. On a fait Noël avec un petit karaoké, avec la bûche de Noël. Là, on va faire un petit loto qui est dérisoire, qui est pas cher. C'est histoire de dire, venez parmi nous. Faut mieux qu'ils soient parmi nous que de rester chez eux isolés ou qu'ils reprennent contact avec des personnes qui sont toujours dans l'alcool. Hein, c'est ça.
Un mot à rajouter?
Là, ce que je peux rajouter, par contre, je lance un petit appel s'il y a des sponsors qui nous écoutent. On est à la recherche, justement, de fonds financiers pour pouvoir mettre tous ces projets en place parce que ça a un coût. Et ce serait vrai que nous, on est à la recherche des personnes s'ils peuvent nous aider au niveau financier. Hein. S'il y a des personnes qui veulent nous faire un don, à savoir que c'est déductible des impôts. On leur fera un papier par lequel que c'est déductible. Et puis, autrement, c'est vrai que c'est compliqué. Mais j'espère qu'on va tenir encore plusieurs années. L'association, elle a 38 ans. J'espère qu'on va encore durer assez longtemps. Voilà.
Je traversais tous les jours le désert. Le sable chaud, le soleil, quelle misère. J'aurais donné ma vie pour boire une bière. Y'avait pas de vent, y'avait pas de courant d'air. De soif, ma langue pendait jusque par terre. Quand on avait le cafard, fallait le faire. On chantait la chanson des légionnaires. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif.
jour, je suis tombé en panne de super. Il n'y avait plus d'essence dans mon dromadaire. Soudain devant moi j'ai vu un berbère. C'était Ali, Baba la bonne affaire. Il m'a dit j'ai des montres, un top pas cher. Des babouches, des cravates, de l'huile solaire. Un collier en plastique pour ta mouquère. Il y avait de tout sauf de la bière. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif. On a soif. Après avoir marché pendant 6 mois, le gosier c'est que je vous jure, c'est pas la joie. J'étais à la recherche de l'autoroute qui allait droit, tout droit sur Knokke-le-Zoet. Un chauffeur de camion passant par là m'a embarqué avec tout mon barda. En route on s'est arrêté plusieurs fois pour boire un verre, les routiers sont sympas. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif. On a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif.
Alors monsieur Petithomme, je vous remercie et j'espère que si les gens ont besoin, viendront vous appeler ou vous voir. Je vous dis à bientôt.
À bientôt.
Votre magazine Vie solidaire est terminé. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Alpes-Mancel. You can't rule another heart.